Chers frères et sœurs et chers amis, aujourd'hui nous arrivons à la numéro 4, à l'étude numéro 4, la série « Quelle est la suprême intention ?» Et le titre pour aujourd'hui sera « Le plan de Dieu se déroule ». Nous avons mieux comprendre ou mieux compris maintenant que nous regardons tout de son point de vue paternel, c'est-à-dire du point de vue de Dieu, ce que Dieu a envisagé dans les conseils de l'éternité. Rien ne peut être affecté par le temps, par le péché ou par la chute. Tout simplement parce que Dieu, c'est Dieu qu'il a décidé d'accomplir des choses. Le prophète Ésaïe parle du reste pour lui quand il dit « Car je suis Dieu, je l'ai conçu et je l'exécuterai ». Observons donc comment le plan de Dieu se déroule. Nous avons représenté quatre phases que Dieu nous destine tous à traverser. Par exemple, si nous ne saisissons pas le plan que Dieu a en vue, nous ne comprendrons jamais qu'à moitié. Évidemment, nous ne pourrons jamais complètement comprendre pourquoi ces étapes sont nécessaires à la réalisation de son objectif. Elle ne saurait être mieux décrite que par ces quatre expressions qui sont les suivantes: être égale la créature, devenir égale le fils, posséder égale en héritier, régner égale parce que qualifié pour le trône. Donc, pour commencer, il est important de comprendre que Adam, quand il sortit des mains créatrices de Dieu, ne possédait pas la vie divine. Bien que créé sans péché, innocent et heureux, le premier homme n'avait pas la moindre parcelle de la vie non créée de Dieu. Biologiquement, l'homme dans le jardin n'était pas l'enfant de Dieu. Ce n'est que en tant que créature du Créateur qu'il pouvait être appelé fils de Dieu. La vie qui est propre à Dieu seul n'a jamais été créée et elle est éternelle. Puisque Adam n'était qu'un être créé, il ne devait, dans l'intention divine, posséder qu'une vie créée, et cela jusqu'au moment où il pourrait éventuellement devenir participant de la vie divine. Et puisque la vie humaine, elle vient d'Adam, les hommes sont tous des créatures qui ne possèdent en elles-mêmes aucune parcelle de vie divine. On peut les appeler les fils ou des fils potentiels, car ils sont créés avec un esprit qui peut être activé par la vie de Dieu. Mais ce n'est qu'en utilisant leur liberté de choix pour adopter le monde et les principes de vie de Dieu qu'ils peuvent alors recevoir la vie divine et devenir par enfantement fils de Dieu. Selon sa méthode de travail, d'abord le naturel, ensuite le spirituel, d'abord l'obéissance, ensuite la révélation, Dieu ne pouvait pas précipiter le don de la vie divine. L'arbre de la vie, le type du Fils éternel qui donne la vie, croissait dans le jardin, mais Adam n'avait pas encore discerné sa valeur suprême. D'autre part, il paraît évident que en créant Adam à son image et selon sa ressemblance, ce couronnement de son activité créatrice, Dieu conféra à l'humanité un statut bien supérieur à celui du reste de la création. Cependant, bien qu'il s'agisse de Dieu, le processus créateur avait ses limitations. Adam fut conçu pour être tout ce que Dieu pouvait faire de lui par sa main créatrice. La vie divine de Dieu, sa nature, sa puissance et son trône nécessitaient d'autres moyens pour lui être accordés. Mais la porte était ouverte à Adam pour devenir et pour partager et pour régner. Il faut bien nous rendre compte que même avant d'avoir péché, Adam avait besoin d'acquérir par une naissance le lien du sang qui lui aurait permis de devenir fils selon le plan de Dieu. Donc, les choses apparaissent. Elles apparaissent sous un autre jour quand nous faisons cette importante découverte. Par sa création, Adam acquit sa vie naturelle, c'est-à-dire qu'il devint une âme vivante et seule une union avec Dieu lui aurait permis de connaître la vie incréée de Christ, le dernier Adam, qui fut envoyé comme un esprit vivifiant. Il n'y a peut-être rien qui ait autant obstrué la vision des chrétiens et compromis leur croissance que la fausse présomption que l'innocence d'Adam, son ignorance du péché, était tout, absolument tout ce que Dieu avait envisagé pour lui. Et c'est cette erreur qui expose tant de personnes à croire que l'intention suprême de Dieu soit de restaurer le paradis que l'homme a perdu. Cette manière de raisonner est le produit d'un faux point de départ. Dans son fameux livre « La vie chrétienne normale », Vachmani confirme cette vérité. Quel était son destin, se demande-t-il. Dieu désirait avoir une race dont les membres fussent dotés d'un esprit grâce auquel la communion avec lui, qui est esprit, fut possible. La race possédant la vie même de Dieu était appelée à collaborer avec lui pour réaliser son objectif en réduisant à néant chez l'ennemi tout pouvoir de soulèvement et en détruisant ses mauvaises œuvres. Ce qui le préoccupe, c'est de nous introduire dans quelque chose que Adam n'a jamais eu et de nous en pénétrer. C'est de sa part une pensée bien arrêtée qui va beaucoup plus loin que la restauration d'une position perdue. Essayons de comprendre le plan originel du Père. Le plan de Dieu n'a pas été déterminé par le péché, ce qui serait l'aboutissement logique, quoique involontaire, du raisonnement de beaucoup. Ce plan est né dans le cœur du Père, et le péché n'a joué aucun rôle dans son élaboration. Dès le commencement, nous en sommes certains, la pensée de Dieu était que Adam et sa famille iraient se développer normalement et moralement surtout, exactement mentalement et spirituel, ce qui va compléter. Et nous savons que Adam fut créé parfait. Je répète donc moralement, mentalement et spirituellement. Et nous entendons par là qu'il était exempt de défauts étant l'ouvrage de Dieu. Il était parfait dans le même sens qu'un bébé est parfait, quoique non encore éprouvé ni développé moralement et spirituellement. Ce genre de perfection ne peut en effet être atteint que à la suite de choix successifs de nature morale, une dimension dont le bébé ignore absolument tout. Faisant allusion à la chose, Oswald Chambers offre la suggestion suivante. Il était peut-être dans le plan de Dieu que Adam, par une série de choix moraux, fut invité à prendre part à son propre développement moral, c'est-à-dire à transformer en obéissant à Dieu, à transformer donc ainsi la vie naturelle en vie spirituelle. Je répète, parce que c'est important, faisons allusion à tout cela, Oswald Chambers, qui était un érudit écrivain biblique, offre la suggestion suivante. Il était peut-être dans le plan de Dieu que Adam, par une série de choix moraux, fut invité à prendre part à son propre développement moral, c'est-à-dire à transformer, en obéissant à Dieu, la vie naturelle en vie spirituelle. Si Adam, créé neutre, s'était de son propre chef tourné vers la voie de Dieu et avait choisi de dépendre de lui, il aurait été rendu capable de profiter de l'arbre de vie représentant la propre vie de Dieu. Dieu et l'homme auraient alors été unis par le lien d'une vie commune, le lien du sang. C'est cela, devenir fils véritable. Commencer par être fils, puis hériter, puis être roi avec Dieu. Mais ces trois phases du plan de Dieu ne peuvent devenir réelles que si les fils apprennent à être conduits par l'Esprit de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils, sont donc mûrs de Dieu, selon Romains chapitre 8, verset 14. Dès l'éternité, l'appel de Dieu à Adam et à sa postérité fut de parvenir à l'état de fils, qui est le portail conduisant à, écoutez bien, à la participation, c'est-à-dire à sa vie même et à son dessein. Ensuite, à l'appropriation, c'est-à-dire de tout ce que Dieu désire partager. Ensuite, la qualification, c'est-à-dire pour le trône, par la discipline. Voilà un mot qu'on n'aime pas beaucoup, être discipliné. Remarquez que lorsque l'apôtre Paul en arrive à Romains chapitre 8, verset 14, après que l'homme ait été relevé de sa déchéance dans les premiers chapitres, il se trouve dans la position que Adam aurait eue s'il avait choisi, par exemple, de vivre, disons, pour l'intention de Dieu. Et c'est vraiment tragique de voir que tant de chrétiens ne semblent intéressés que à atteindre ce point-là. Car pour l'apôtre Paul, qui comprenait l'intention du Père, c'est en réalité là que se trouve le point de départ, si l'on tient à réaliser ce que Dieu a voulu. Essayons maintenant de voir comment ces trois phases, celle de fils, celle d'héritier et celle de roi, trouvent leur expression dans l'expérience de chaque fils des entrailles de Dieu par le chemin de la participation, de l'appropriation et de la qualification. Premièrement, le Fils. Dans Romains chapitre 8, verset 16, saint Paul souligne que l'Esprit rend témoignage à chacun quand il est enfant de Dieu, étant né, le désir du Père, c'est que l'Esprit Saint entreprenne une œuvre dans l'enfant nouveau-né pour qu'il devienne avec le temps un fils pleinement développé. Bien-aimés, nous sommes ici et maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons plus tard n'a pas encore été révélé, donc rendu très clair. Mais nous savons que lorsqu'il viendra et sera manifesté, nous, enfants de Dieu, nous lui ressemblerons et nous serons comme lui. Et chacun de ceux qui ont cette espérance se purifie. Notez 1er épître de saint Jean, chapitre 3, versets 2 et 3 du Nouveau Testament amplifié. Nous devons donc être prompts à discerner qu'il y a des choses qui nous viennent simplement comme un don de Dieu, par exemple sa vie, sa nature, son esprit, mais il y en a d'autres, tels que le caractère éprouvé de Christ, tels que sa mentalité, sa vision, sa volonté et sa consécration, qui sont le produit de l'éducation, qui sont le produit de la discipline, on revient à la discipline, des épreuves, des difficultés, des victoires et d'une formation spirituelle intense. Et tout cela faisait donc partie intégrante du plan originel de Dieu, non parce que l'homme a péché, mais même s'il n'avait pas péché. Ensuite, l'héritier. Dans Romains chapitre 8, verset 17, notre cher apôtre Paul nous annonce que nous sommes co-héritiers avec Christ. La naissance confère le droit de devenir héritier. Mais l'entrée en jouissance de l'héritage n'est assurée que à ceux qui vivent conformément aux intentions du Père. Quand celui qui était devenu Alexandre le Grand a atteint l'âge de 12 ans, son père, le roi Philippe de Macédoine, prit des mesures pour que Aristote puisse devenir son compagnon et son tuteur. Plus tard, Alexandre considéra le grand philosophe comme son père et l'honora comme tel. Il exprimait par là que alors il avait reçu son corps de Philippe, c'était Aristote qui était le père de son entendement. Il déclara qu'il était plus reconnaissant envers Aristote pour les connaissances acquises avec lui qu'envers son père pour la vie qu'il en avait reçue. Et nous aussi, chers amis, qui sommes fils de Dieu, et cela par la naissance, nous devons choisir si nous voulons permettre à notre Père céleste de nous communiquer sa manière de voir, son dessein, sa vision et son intention suprême. Il est riche de biens qu'il désire ardemment partager avec ceux qui, par leur croissance et par leur développement de leur caractère, sont capables de supporter de la nourriture solide. Il est donc toujours dans l'attente que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Notez Éphésiens, chapitre 4, verset 13. Mais si nous oublions l'intention de Dieu à l'égard de chacun des fils, lui ne l'oublie jamais. Il veut, chaque fois qu'il nous fait passer par le creuset, il veut développer en nous de plus grandes aptitudes à jouir de notre statut d'héritier. Gardons donc bien cette distinction présente à l'esprit et ne nous trompons pas nous-mêmes en nous imaginant que certaines expériences que nous avons faites, telles que le salut, la séparation du monde, la consécration, la plénitude du Saint-Esprit ou la guérison, signifient l'une ou l'autre, ou toutes ensemble, que nous avons pris de la maturité ou gagné en stature. Elles ne sont guère qu'une série de crises par lesquelles le Saint-Esprit fait passer les cœurs assoiffés de vérité et de réalité. Les expériences sont comme des portes ouvertes que nous franchissons, mais aucune expérience n'est une fin en soi. En franchissant les portes, toujours attentif à sa suprême intention, nous devons nous abandonner au but de chaque crise. Ainsi bien que nous soyons, par notre naissance, des héritiers présomptifs, il y a beaucoup de choses que le Père ne peut pas partager avec nous, tant, et cela évidemment, tant que nous ne sommes pas assez mûrs pour nous en saisir, pour nous faire connaître la pleine mesure de sa lumière et de son amour. Il attend que nos capacités, qui sont, il faut bien le reconnaître, limitées, puissent se développer. Il désire ardemment nous donner sa paix et sa joie. Mais certaines leçons doivent premièrement être apprises à son école. Il peut nous communiquer sa sagesse et sa connaissance, mais l'expérience seule peut nous les faire posséder. Finalement, nous avons le trône. Et là, vous pouvez noter Romains, chapitre 8, verset 17. On m'a dit qu'il ne faut pas dire trop vite les citations bibliques, alors je les dirai un peu moins rapidement, parce que je comprends qu'on ne peut pas noter quelque chose qui va comme un TGV. Donc, Romains chapitre 8, verset 17, là, on nous parle de la gloire qui suivra la souffrance. Oui, si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui, selon 2 Timothée chapitre 2, verset 12. Ce n'est pas la souffrance comme telle qui nous qualifie pour le trône, mais la souffrance qui accompagne l'obéissance de celui qui ne demande que à apprendre. Ce n'est même pas tout. Il y a d'autres conditions à remplir si nous voulons être qualifiés pour le trône. Certes, certaines ou certaines personnes seront mieux comprises dans les prochaines études. Je veux dire par là certaines choses de nos études que vous entendez actuellement seront mieux saisies, mieux compris, mieux réalisé dans les prochaines études, et cela au fur et à mesure que la vérité se fera jour. Mais disons ensemble ceci, le premier appel de Dieu à l'homme le destinait au gouvernement de la terre, et cela selon qu'il s'en montrerait digne. Et son dernier appel le destine à partager le trône avec lui, et cela au plus haut du ciel. Que nous puissions participer au privilège d'être assis sur le trône, c'est quelque chose qui dépasse évidemment notre compréhension et surtout la mienne. Mais c'est bien l'intention du Père pour tous ceux qui s'en montrent dignes, c'est vrai. Et disons enfin qu'aucun homme, et je veux dire homme et femme, ça veut dire la même chose, n'est-ce pas? Aucun homme ne vivra jamais, et nous pouvons en être sûrs qu'il ne vivra jamais au-delà de sa vision, c'est-à-dire au-delà de l'idée qu'il se fait du but qui est à atteindre. Si le simple salut, la victoire sur le mal et la restauration du paradis perdu lui suffisent, alors évidemment Romains chapitre 8 sera pour lui l'étape suprême et finale. Il en restera là, et les trois phases de la croissance que nous avons décrites n'auront pas beaucoup de signification pour lui. Mais voilà, quand nous aurons vu les choses dans la vaste perspective divine et pleinement embrassé qui est sa suprême intention, alors notre cœur battra plus fort et nous découvrirons ce que cela signifie d'être des fils dont tout l'être est centré uniquement sur Dieu, étendu vers le but suprême qui est l'absolu. Nous nous rendons donc compte de mieux en mieux que le point de départ doit toujours être le Père, son désir, son dessein et son intention, car c'est le seul moyen que nous ayons de rester dans une juste perspective. C'est aussi le seul moyen qui nous permette de comprendre cette loi importante qui règle toute son activité, de tout ce qu'il attend de notre part. Il est absolument impossible de rien accomplir par nos forces naturelles. Il nous faut pour cela les ressources qu'il fournit lui-même. Et c'est là sa manière d'obliger les hommes à une constante et absolue dépendance de sa personne. C'est ce qu'on a souvent dénommé l'appel à une vie impossible. Oui, c'est difficile, la vie chrétienne, et j'en sais quelque chose. Vous n'y êtes pas, car elle est carrément impossible. Et cette parole d'un chrétien connu est vraie, parce que Dieu nous a appelés à vivre de la vie d'un autre. On ne peut vivre la vie qu'il désire et répondre à l'appel qu'il adresse que en suivant sa voie et en employant ses ressource. Merci Seigneur. Adam dut faire face à ces appels ou à cet appel impossible quand il se trouva devant un choix à faire. Deux voies s'ouvrirent devant lui, représentées par deux arbres. Et tous les hommes depuis Adam ont aussi dû apprendre cette fameuse leçon. Dieu n'est pas préparé à livrer ses ressources tant que les hommes n'ont pas renoncé aux ressources naturelles. Il n'existe pas de terrain neutre. Ou bien l'homme va se nourrir de l'arbre de la connaissance et réaliser ses propres objectifs, ou bien, comme Dieu l'avait espéré, il décidera de s'unir à lui qui est l'arbre de vie, et cela pour avoir part à ses ressources inépuisables. La philosophie du gain ne peut être associée à la vie divine qui ne peut que donner. Je répète, la fameuse philosophie du gain, elle ne peut pas être associée à la vie divine, car elle, la vie divine, peut que donner. Au milieu du jardin se trouvait donc l'arbre de la vie qui semble avoir occupé la position la plus importante. Aucune interdiction ne frappait son fruit. À cette place centrale, il représentait la source de toute croissance et de toute activité, et son nom même aurait dû parler à Adam. Mais voilà, il était lent à comprendre. Je connais quelqu'un qui est aussi lent à comprendre, c'est moi. Je n'ai pas honte de le dire. Alors qu'il hésitait, ce pauvre Adam, sa femme, aidée par quelqu'un de pas très catholique, je fais un peu d'humour, bien que c'est sérieux, aidée par Satan, se tourna donc vers un autre arbre dont le fruit leur avait été formellement interdit. Cet arbre, appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, représentait une vie d'indépendance. Oui, c'était la voie de l'ambition personnelle. Comme nous l'avons dit, l'intention de Dieu dès le commencement était que Adam et sa famille se trouvent en présence d'un choix à faire, d'un choix moral. L'arbre de vie, avec ses branches en éventail, mais vers le ciel, illustre le désintéressement, le régime fondé sur le dépouillement, c'est-à-dire la vie consacrée à Dieu. Celui qui adopte cette manière de vivre réalise l'intention divine. Il suit donc le mode de vie céleste. Il suit l'enracinement de la croix. Or, puisque cette vie est constamment tendue vers Dieu, rien ne l'empêche d'avoir sa part pleine et entière au privilège des héritiers. Ce qui revient à dire qu'elle aura toujours, toujours les ressources dont elle a besoin dans ce que représente le fruit de cet arbre. L'autre arbre a ses branches tournées plutôt vers la terre, et cela pour entraîner Ève sur la voie du gain. Elle a été conduite à croire qu'il y avait dans cet arbre quelque chose pour elle. Elle s'est affranchie de sa dépendance de Dieu et a invité son mari à faire de même. Ensemble, ils ont dit en substance, « Maintenant, nous allons être capables d'agir seuls et de plein droit ». nous connaîtrons par nous-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. Et dans un sens, c'était bel et bien vrai. Ils étaient en train de devenir des petits dieux, jouissant d'une complète liberté d'action. Ainsi, quand Adam et Ève ont pris du fruit défendu, une nouvelle notion d'indépendance s'est développée dans l'entendement humain. Et voici donc l'explication qu'en donne le célèbre Vachmani. Son émotion fut touchée parce que le fruit était agréable à boire, éveillant le désir, l'entendement, avec son pouvoir de raisonnement se développa, car il était devenu sage, sa volonté se fortifia, lui permettant désormais de toujours choisir lui-même, par lui-même, sans l'aide de Dieu, sa propre voie. N'étant plus absolument dépendant de Dieu pour l'instruction dont il avait besoin, Adam se croyait devenu indépendant. Chers amis, vivre par l'âme ou par l'esprit, cela n'est pas la même chose. Je répète, vivre par l'âme ou par l'esprit, c'est pas pareil. Maintenant que nous comprenons la voie que prit le premier homme, nous pouvons voir comment elle détermina les étapes de son développement. L'intention divine était que Adam s'unit à lui par le lien d'une vie commune, c'est-à-dire qu'en acquérant par la naissance un lien de parenté avec Dieu, l'esprit humain aurait passé sous la direction et le gouvernement du Saint-Esprit. Intelligence, émotion et volonté seraient devenus pour le Saint-Esprit des moyens de communication, des organes de transmission. Or, en choisissant d'agir dans l'indépendance, Adam provoqua un développement autonome des ressources de son âme. Désormais, l'homme ne sera pas seulement une âme vivante, mais il vivra par son âme, selon Vachmani. Ce changement peut se résumer comme suit. Pour Dieu, son moyen de communiquer avec l'homme cessa donc d'être sensible à son influence. Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement, selon la version allemande. Ainsi le péché sépara l'homme de Dieu, plus encore. Il le coupa de celui-là même qui aurait partagé sa vie divine avec l'esprit humain. En fait, pour l'esprit de l'homme, ce fut la mort pour tout ce qui touchait à ses rapports avec Dieu, alors qu'il était destiné, rappelez-vous, dans la pensée divine, à une union vivante et spirituelle avec Dieu. La définition scientifique de la mort va nous aider à comprendre ce qui précède. Voyons donc, la mort, ça c'est l'arrêt subit de tous les rapports avec l'environnement. Par sa désobéissance, Adam se détourna donc de l'orientation spirituelle que Dieu lui avait donnée. De même que l'œil est mort quand il ne réagit plus aux objets qu'on met devant lui, ou que l'oreille est morte quand elle ne réagit plus aux ondes sonores, ainsi voyez-vous, l'esprit de l'homme est mort à l'égard de Dieu quand il cesse quand il commence à totalement cesser de réagir à l'influence de l'Esprit Saint. Et ça, c'est ce qui est arrivé. L'alternative est donc la suivante. Vivre par l'âme ou vivre par l'esprit. Je vous ai déjà dit que c'est pas pareil. Nous devons cependant faire cette distinction, bien que Adam fût créé avec une âme, l'existence de cette âme ne devait pas entraîner la mort de son esprit, l'obligeant par là à vivre uniquement par son âme. Dieu n'entendait pas que l'âme dût prendre la place de l'esprit comme principe de vie. Il avait conçu l'homme pour qu'il soit toujours en possession d'une âme, mais cette âme devait toujours être subordonnée à l'esprit et devenir son instrument, donc à devenir son organe par lequel il pourrait s'exprimer. Et c'est pourquoi l'œuvre divine de rédemption a pour but de remettre en état de fonctionnement le mécanisme intérieur de l'homme afin qu'au lieu de vivre sur les ressources de son âme, l'homme noue une relation spirituelle avec Dieu et se met à vivre par l'esprit et non pas seulement par l'âme. Et c'est ainsi que Dieu réalise son intention d'obtenir des fils qui représenteront l'expression de sa vie dans des êtres humains. Rien n'est plus simple quand on change de but et de philosophie de la vie, c'est qu'on a changé d'arbre. Oui, Christ, qui devient ainsi notre vie, ne nous permettra pas du tout de rechercher des objectifs divins par nos propres forces. Qui sommes-nous pour croire cela? Nous ne sommes pas appelés à produire, mais nous sommes appelés à participer à sa vie, à la vie de Jésus-Christ et à prendre à cœur ses intérêts. Il fallut donc à Israël, je crois, 40 ans dans le désert pour apprendre cette leçon. Et moi, je me sens tout à fait dans cette masse qui avait besoin de 40 ans pour comprendre. Lorsque Dieu les a appelés à faire leur entrée en Canaan, les espions ont vu. Ils ont vu les villes fortifiées et les géants entrer dans ce pays par leur force naturelle était une pure impossibilité. Mais les murailles de Jéricho étaient tout aussi épaisses et tout aussi hautes 40 ans plus tard. C'était tout aussi impossible à la force ou à la sagesse naturelle de concevoir la méthode que Dieu, pour finir, leur indiqua pour s'emparer de la ville. Ce qui était donc impossible est devenu possible par un simple acte d'obéissance et de foi. Bien que la participation des Israélites à la méthode de Dieu les fit paraître ridicules aux yeux des assiégés, ce fut quand même le chemin par lequel le peuple a dû apprendre le secret de la vie impossible. Il n'est ni participation, ni appropriation, ni qualification possible. Il n'est ni, je répète, toutes ces choses humaines sont donc pas possibles tant que nous n'avons pas, chers amis, appris. Appris quoi ? Appris à vivre de ce fameux arbre qui est Dieu lui-même. Alors, j'ai appris dernièrement que le mot renouvelle ou renouvelle dans Ésaïe, chapitre 40, verset 31, ce mot de renouveler, Ésaïe 40, verset 31, signifie également échange, échanger. Ainsi, voyez-vous, ce texte pourrait se lire correctement, mais ceux qui se confient en l'Éternel échangent leur force. Ça paraît magnifique, et c'est vrai. Je répète, selon certaines versions allemandes, il est dit que ceux qui se confient en l'Éternel échangent, c'est un échange, leur force. C'est Dieu qui leur donne ce qu'ils n'ont pas ou ce qu'ils ont besoin. Le voilà donc le secret. Le chrétien échange son ancien mode de vie et ses anciennes ressources contre de nouvelles ressources et un nouveau mode de vie. La faiblesse, elle est donc échangée contre la force. Actuellement, j'étais hier dans une situation de faiblesse. Et gloire à Dieu, le Seigneur, il exauce et il nous donne là où nous ne pouvons rien faire. Il nous donne la possibilité de faire. Je suppose, a dit un célèbre écrivain des textes bibliques, A.W. Tozer, que ce n'est pas exact de dire que Dieu fortifie son peuple. Voilà ce qu'il dit. Ce que nous devons comprendre, c'est que ses enfants deviennent forts, forts dans la mesure exacte de leur faiblesse. La faiblesse, c'est ce que Tozer dit, la faiblesse est leur faiblesse propre, ça c'est la force, et elle devient la force de Dieu. Et quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, c'est la manière de l'apôtre Paul, également, d'exprimer la même pensée. C'est pas n'importe qui, notre saint Paul. Et par cette déclaration lapidaire, il a fixé un modèle pour tous les croyants. Ce qui est arrivé, c'est qu'il s'est débranché de sa petite batterie humaine pour se brancher sur l'infinie puissance de Dieu. Ça, c'est beaucoup plus puissant que les pilvarta. Et maintenant, n'oublions pas que nous étudions le plan de Dieu pour nous amener à la participation, l'appropriation et la qualification. C'était là son plan originel et il n'a en aucun sens été modifié par le péché ou par la chute. Dans l'étude suivante, nous examinerons comment la rédemption se trouve incorporée au plan divin. Et nous verrons que les hommes ont été tellement saisis par les merveilles du salut que le projet plus grandiose encore que Dieu avait formé pour ses fils leur a totalement échappé. Nous ne sommes pas appelés simplement à recevoir sa vie divine, communiquée à la nouvelle naissance, mais nous sommes appelés à une pleine participation à la vie de Christ. Nous ne sommes pas appelés simplement à apprécier le bourgeon, ce qui est déjà pas mal, mais nous sommes appelés à permettre à la fleur, je répète, à la fleur, de enfin s'épanouir pleinement. Alléluia. Qu'il ne s'imagine pas, celui qui se laisse encore dominer par le principe d'une vie égoïste, vécue pour lui-même, pour moi-même, qu'il est en train de participer dans une mesure quelconque à cette vie divine. Il n'y a qu'une sorte de vie que Jésus-Christ soit prêt à vivre en nous. C'est une vie vécue pour le Père et délivrée au service des autres, pas seulement le « moi » sur le trône. Le piège de l'heure actuelle, c'est que alors qu'ils veulent volontiers d'une expérience critique au cours de laquelle ils recevront, pour eux-mêmes uniquement, la vie de Christ, les hommes n'ont que peu d'intérêt pour une manifestation quotidienne de cette vie sous le regard du divin observateur à la seule satisfaction de Dieu. Nous allons donc voir comment Dieu entend que la chose se fasse en examinant la méthode de l'appropriation. C'est sans doute ce problème-là qui pousse l'apôtre Pierre à écrire, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, et cela à cause de cela même. Faites donc tous vos efforts, je dois faire tous mes efforts pour joindre à votre foi, à ma foi, la vertu. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 3 et 5. Donc, les tentations, toutes ces tentations qui sont des hautes murailles et les fameux géants qui sont les démons qui nous inspirent le mal. Et aujourd'hui, dans tous les pays, les géants font que le mal. Ils se tuent les uns les autres. C'est épouvantable. C'est la fin des temps. Et tout cela, ils font donc partie de l'activité divine. Le Père ne fournit pas à ses fils la pleine maturité de la nature divine comme il fournirait une maman du lait à son bébé dans un biberon. Quand surgit la tentation au mal, l'apôtre Pierre, il a dit, ajoutez à votre foi la vertu. Et ça, c'est important. Quand les murailles sont trop hautes, ils sont souvent trop hautes, il dit, ajoutez à la vertu la connaissance. Le Dieu qui a fait la promesse, il a aussi prévu une méthode. Apprenez-la. Le pays est-il rempli de bénédictions temporelles? Seulement pour aujourd'hui, ne vous laissez pas aller. À la connaissance, ajoutez la tempérance. Les géants tiennent-ils bon dans les forteresses de Canaan? Alors ajoutez la patience. Et les païens envahissent-ils votre foyer avec des faux dieux mirobolants comme de nos jours? Eh bien, mettez-les simplement à la porte. Il y a un temps pour la patience, mais maintenant ajoutez la piété. L'incompréhension de vos voisins ou même de vos frères et sœurs vous est-elle à charge? Ça fait rien s'il y en a qui pensent que vous êtes un peu zinc-zinc. Mais continuez à obéir au Seigneur et de l'aimer. Ajoutez l'amour fraternel. Et cet amour qui supporte longtemps. Et quand nous découvrons que nous ne pouvons pas nous approprier certaines choses en ayant recours au vieil arbre, eh bien nous cernons mieux notre problème et alors tout va s'éclairer. De quel arbre vivons-nous? De l'arbre du naturel ou de l'arbre du spirituel? Je vous ai déjà dit, c'est pas pareil. Tant que nous n'avons pas été sectionnés du vieil arbre qui est sauvage par nature et greffé sur le bon arbre, nous n'avons pas appris à vivre de notre nouvelle source. Ce n'est pas en retournant au sacrifice consenti pour nous que nous revêtirons Christ, mais en apprenant à collaborer avec Christ et à nous approprier sa vie. Maintenant, avant d'examiner la méthode divine de nous qualifier pour le trône, assurons-nous que nous avons bien appris cette loi. Pour les hommes qui s'appuient sur leurs ressources naturelles, ce programme est irréalisable, mais pour ceux qui sont unis à Dieu, tout est possible, possible pas par nous, mais possible par lui. Il s'ensuit que toute crainte sur le chemin de la croix, toute défaillance dans nos résolutions, si nous sommes déjà engagés, elles ne peuvent venir que de notre ignorance de la bénédiction à laquelle ce chemin va nous conduire, va vous conduire. Et dans la vie de l'épouse, le moment qui lui procure le plus de joie devrait être celui où elle perd son nom et son indépendance propre à la cérémonie du mariage. En prenant le nom de son mari au lieu du sien, elle perd sa vie en lui. Elle est donc mariée à un autre et possède dans cette union une nouvelle source de vie. De même pour nous, chers amis, le moment le plus heureux devrait être celui où, par l'œuvre de la croix, nous avons renoncé, ou j'ai renoncé, au droit que nous avions de nous appartenir uniquement à nous-mêmes, et où nous sommes considérés comme morts au moi, morts au péché et morts au monde. Mais alors, glorieusement vivant, pour qui? Pour lui, notre Père éternel et notre Seigneur Jésus-Christ, qui a offert sa vie à la croix pour nous arracher à la mort éternelle. Prions donc maintenant, et je vous mettrai, si c'est possible, un ou deux chants. Il y a plus de 50 ans, quand j'avais en ce temps-là formé, élaboré, si vous voulez, construit aussi et fondé une petite chose comme une mission, une véritable mission sur cassette qui ont été envoyées un peu partout, gratuitement. C'était peut-être un peu risqué, puisque ça nous a coûté, comme vous dites en français, un mot qui me fait des fois rire, qui nous a coûté les peaux de la fesse, je crois que vous dites comme ça. Bon, alors, ce sera peut-être pas magnifiquement audible, hein, c'est des cassettes vieilles de 50 ans. Mais prions d'abord ensemble. Dieu, Dieu unique, de tout l'univers, tu es notre Père. Jamais, nous pourrons assez démontrer notre reconnaissance de l'œuvre énorme que votre Fils Jésus-Christ a accomplie à la croix pour que notre vie de mort spirituelle puisse être totalement transformée, changée en une vie de résurrection spirituelle. Oui, nous étions des morts vivants et tu nous as rendus à la vie véritable. Nous désirons maintenant, plus que jamais, que notre vie devienne semblable à la tienne. Seul en toi, Jésus-Christ, nous trouvons tout ce que nous recherchons. La véritable vie, elle est que en toi. Et rien ici-bas, absolument rien, plus rien, peut nous retenir, car notre ciel commence, il commence au voile déchiré. Et l'agneau de notre vie, eh bien tu es toi notre agneau, l'agneau de notre vie. Et nous te demandons donc, viens, agneau de vie, pour éclairer tous nos pas de ta divine lumière. Amen. Et je vous mets maintenant, si ça marche, quelques chants du passé.
Ce solo que vous venez d'entendre est un nouvel enregistrement de M. Wojciechowski.
Schuf Gott diese schöne Welt. Doch als mein Herz